Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Mathilde Gandon, je travaille pour la Fresh Tech in the Alps Grenoble et je suis aujourd'hui accompagnée de Manon Wong. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors Manon, tu occupes le poste de External Growth Director, qu'on pourrait traduire par directrice de la croissance externe. C'est un poste que tu occupes au sein d'une start-up valentinoise. Et donc on va revenir sur ces sujets. Mais avant toute chose, tu nous as ramené un objet. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, je vous ai ramené un objet qui est plein de sens pour moi. Donc c'est une carte postale. Qui a été, en fait c'est une photo, voilà, qui a été prise à Paris un matin très très tôt, en 2017, dans un hôtel particulier très très beau, où on avait candidaté pour le premier prix d'innovation de l'ANDAM Fashion Award, et cette photo a été prise en amont du passage des explications devant le jury qui était composé de toutes les oreilles qu'on voulait convaincre, qui sont aujourd'hui nos soutiens. Et donc c'est plein de sens parce que ça permet de... On n'était que 5 à l'époque et ça permet de se rappeler d'où on vient. Et donc on a gagné ce prix.
L'ANDAM, du coup.
L'ANDAM, voilà. L'ANDAM Fashion Award, donc en premier prix d'innovation. C'était la toute première session. Je l'ai déjà dit, mais on ne s'attendait pas du tout à avoir ce prix-là. Même on nous a annoncé qu'on était les lauréats, on n'avait pas compris. tellement qu'on n'y croyait pas et que c'était inespéré. Mais du coup, c'était une belle surprise. C'était la... Pourquoi cette carte postale, en fait, cet objet a autant d'importance pour moi ? C'est parce que c'est le premier. On a eu depuis d'autres rewards, on a eu des beaux contrats de signés, on a eu d'excellentes nouvelles. Cependant, c'est plein de sens parce que c'est le premier. C'est vraiment le premier Grand Prix qui nous a permis de changer de dimension. En fait, l'aventure a changé à partir de ce moment-là. Les équipes ont grandi. Notre renommée, on va dire, a pu commencer à se construire. On a pu commencer à développer la société. Ça a été un tournant, ça a été le premier. Et c'est bien aussi de se le remémorer dans les moments difficiles comme dans les moments de dynamisme, parce que ça fait toujours du bien.
En tout cas, c'est une belle photo. Ouais. Merci pour ce partage. Et donc, tu dis « on », tu fais référence bien sûr à EVK.
C'est ça.
La start-up dans laquelle tu travailles actuellement et dans laquelle tu occupes ce poste qui nous intéresse aujourd'hui, donc directrice de la croissance externe, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est transversal, tout premièrement. Et puis, c'est un nouveau poste, en fait, c'est pas dans la dénomination, on va dire, standard d'une croissance externe. On peut penser à des FUSAC, on peut penser... Fusion-acquisition, on peut penser à tout ce qui est croissance verticale. En fait, ce n'est pas du tout ceux qui m'occupent, ceux qui occupent mes journées, on va dire. Non, c'est tout ce qui est attrait, en fait, à la croissance de l'entreprise qui a à voir à l'extérieur de l'entreprise. On a par ailleurs une directrice de la croissance interne qui s'occupe de tous les aspects RH, administratifs, de communication, de tout ce qui va graviter à l'intérieur de la société. Et moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui gravite à l'extérieur de la société, c'est-à-dire le développement commercial international, par exemple, des ouvertures de marché, des déploiements sur différents pays. Ça peut être des partenariats industriels, technologiques, bien sûr, tout ce qui a trait aux levées de fonds, donc aux financiers. Donc, ça, j'ai parlé des programmes d'innovation et aller chercher aussi des fonds via des projets, par exemple, européens.
D'accord. Donc là, tu as énuméré un certain nombre de termes, finalement, qui sont assez typiques dans le monde des startups. Le côté croissance... C'est vrai que c'est finalement une start-up, par définition, c'est une entreprise, une jeune entreprise à fort potentiel de croissance. Du coup, à quel point ton poste est tout simplement, j'imagine, crucial dans une jeune équipe qui a un projet à fort potentiel?
Oui, il est important. Enfin, chaque poste a toute son importance, chaque personne a toute son importance au sein des équipes telles que des startups, parce qu'on a tous plusieurs postes à notre actif. On est tous, je pense, en fait, réunis et surmotivés par le même projet, donc on va tous dans le même sens. Et en fait, c'est indéniable et c'est juste crucial si on travaille dans une start-up. Donc oui, chaque poste a son importance. Mais en fait, je pourrais avoir un autre intitulé de poste, ça serait la même chose. Je ferais les mêmes choses au sein de la société. J'ai changé, il me semble, 3 ou 4 fois de nom de poste depuis que je suis là. Mais au final... Bon, j'ai acquis en expérience et j'ai voilà, au fil du temps, j'ai fait de plus en plus de choses, mais au final, j'ai toujours été très investie et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu aussi travailler dans tous les aspects du business qui moi m'intéresse et dans lesquels je peux performer. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que tu cites en fait des domaines dans lesquels tu es amenée à travailler qui sont assez variés et assez stratégiques, qui touchent vraiment au cœur de l'entreprise, de son projet de développement. Tu citais le développement international. Rien que ça, j'imagine que c'est un métier, enfin c'est un temps assez conséquent.
C'est un temps conséquent. Après, ça vient par vagues. Donc on priorise les urgences parce que les journées ne font que 24 heures et je ne suis qu'une seule personne avec deux mains, deux jambes, un cerveau. donc il faut aussi savoir prioriser ces urgences, on va dire. Et aussi prioriser les ouvertures internationales, par exemple. On a, nous, des prospects, des clients... très connu, implanté dans le monde entier. Oui, mais on n'est qu'une start-up et on peut pas ouvrir 10 pays la même année. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était un choix du point de vue de la présidence. On priorise et donc là on est en train d'ouvrir aux États-Unis et prochainement ça sera la Chine. Donc on a déjà des robots et aux États-Unis et en Chine. Et donc maintenant qu'on a vraiment un marché américain qui est certifié avec des grands noms à notre actif, maintenant on ouvre le bureau. Voilà. Donc ça, c'est pour l'année prochaine.
Super. Ouais. Félicitations. Merci. Et alors, comment ça se passe pour s'implanter dans un pays, puisque c'est l'un des aspects de ton activité? Tu travailles en lien avec peut-être un business developer, un chargé de... Enfin, un responsable commercial?
Oui. Donc non. Non. non, on le gère depuis la France. Voilà. Moi, j'ai participé à un programme d'accélération spécialisé dans les femmes entrepreneurs, en fait, qui s'appelle le New York Fashion Tech Lab. Donc ça a été un programme de 6 mois qui permet aux femmes entrepreneurs d'être catapultées dans un écosystème assez tech, assez mode. Par ailleurs, on avait fait d'autres programmes d'accélération qui nous avaient vraiment permis, d'une première part, de pouvoir vraiment valider l'intérêt du marché américain pour la solution. Et on est en échange plus pour la partie, on va dire, administrative, légale et financière avec des partenaires qui sont franco-américains. Et bien sûr, on va prendre un country manager le moment venu où on va pouvoir délocaliser une personne de notre équipe sur les États-Unis le moment venu.
D'accord. Donc ouais. En fait, aux prémices du choix d'aller s'implanter à l'international, de croître à l'étranger, c'est un travail d'exploration que tu fais.
C'est un travail d'exploration. Alors, c'est plus qu'un travail d'exploration parce qu'aujourd'hui, on a quasiment quand même 10 unités sur le territoire. Voilà, on a des renouvellements de commandes. Et puis, surtout, je me suis implantée aux États-Unis dans le sport, dans le prêt-à-porter, dans le luxe. On est en fait multisecteur. On a signé cette année the client en retail que tout le monde connaît, je pense. Donc c'est plus qu'une preuve de, enfin qu'une exploration de marché. Là, c'est plutôt vraiment la confirmation que notre marché est plus à l'international d'ailleurs qu'en France.
Ok.
Voilà.
Et donc au sein de l'équipe EVK ou d'une équipe de start-up en général, un external growth director, il y en a qu'un par définition. Ou comment ça se passe? Comment ça s'organise en fait?
Oui, bah je suis toute seule à ce poste-là, en tout cas, et je suis en lien direct avec notre CEO et fondatrice de la société, donc c'est la personne avec laquelle je travaille le plus.
CEO
PDG.
PDG.
Voilà, PDG de la société et fondatrice, du coup. Donc c'est avec cette personne-là que je travaille le plus, le plus clair de mon temps, mais également avec les équipes directement, les équipes commerciales pour le développement de la société d'un point de vue business, avec les équipes de marketing produit pour les projets innovants et les sorties de produits, avec les équipes de communication pour toute la stratégie de commercialisation en digital. Vu qu'on n'est pas beaucoup dans la société, on amène plutôt les marques et les gens vers nous plutôt que d'aller faire de la prospection, ce qu'on fait typiquement dans une société, on va dire, hors start-up, hein, voilà, sur un cycle de vente standard. Je travaille beaucoup avec les équipes techniques sur les partenariats technologiques, en termes de compatibilité de notre technologie à nous, du robot, avec d'autres technologies qui peuvent être robotiques ou digitales. Et la solution, et aussi en collaboration avec les équipes industrielles, nous pour faire pour une stratégie de scale-up, donc de pouvoir vraiment produire plus de quantités de mannequins pour vendre à plus de pays ou augmenter les parcs de robots chez nos clients.
Et alors, ça fait plusieurs fois que tu parles de robots.
Oui,
EVK, oui. Dis-nous tout. Qu'est-ce que fait EVK?
EVK, nous, on est spécialiste en robotique liée à la morphologie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a révolutionné le mannequin de couture. Voilà, qu'on peut imaginer dans les ateliers ou chez nos mamans ou grand-mères qui, des fois, en ont. Donc ce mannequin-là, en fait, qui n'est pas du tout réaliste de la réalité morphologique, qui est en bois et qui est rigide, on l'a robotisé. On l'a robotisé, donc il est capable de changer de forme de corps, de changer de taille. Et donc c'est une solution qui est anthropométrique, donc on est mathématiquement exact. En fait, on arrive à reproduire la morphologie d'une personne ou d'une cliente cible avec ce mannequin-là, qui est piloté avec notre logiciel. Et on assiste les professionnels du textile sur toute la chaîne de valeur, donc de la phase de design, du développement de produits en production, donc dans les usines, et également en boutique, et sur de la vente en ligne. Voilà. Dans le métier de growth manager, de external growth director, mais en fait dans tous les métiers de la start-up, il y a une phase qui est commune à nous tous et qui est primordiale, c'est la phase d'évangélisation. On est en start-up, on est sur un produit qui est nouveau, avec ses propres procédés, qui vient complètement révolutionner une chaîne de valeur et des méthodes de travail qui sont très artisanales. Et il y a toute une phase d'évangélisation auprès des différents métiers de la mode et du textile en général, parce qu'on ne travaille pas que pour la mode. On travaille aussi pour le sport, le médical, le militaire, l'aérospatial. Voilà, tout ce qui en a trait avec le textile et les équipements textiles.
D'accord, donc ça fait partie intégrante de ton métier?
Oui.
De faire de l'évangélisation, donc d'aller porter la parole, expliquer ce que c'est que votre innovation?
Oui, c'est une très grosse partie du travail. Oui. Ça a été encore c'était la partie majeure de notre travail jusqu'à présent. Maintenant, c'est vrai qu'on nous connaît un peu plus, donc on a moins d'évangélisation à faire. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec le Covid, les gens comprennent mieux ce qu'on fait. Voilà. Parce que notre solution permet de travailler à distance, essentiellement. Donc c'est vrai que les marques sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui et beaucoup plus alertes aux bénéfices et au fonctionnement de la solution.
D'accord. Voilà. Et alors finalement, pour essayer de bien cerner ton rôle dans une société comme une start-up, t'as le côté en responsabilité de la croissance externe, donc t'es... En fait, finalement, c'est un peu une synthèse de plusieurs métiers qui peuvent être existants dans d'autres entreprises plus traditionnelles, entre guillemets.
C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Là, par exemple, le plus clair de mon temps, je m'occupe d'une levée de fonds. Donc, je suis en train de construire un business plan. Alors, c'est un travail à temps complet de plusieurs comptables dans des sociétés. Enfin, c'est oui, concrètement, on a tous plusieurs postes à notre actif. Ça, c'est clair. Ça peut se résumer à ça. Je suis aussi commerciale. Du coup, je suis aussi. Je fais ma propre logistique. On s'occupe de tout.
Ok. Mm. Et donc, la journée type ou alors la semaine type.
J'en ai pas, c'est très variable, c'est très variable et très transverse, ce que je disais. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas de journée type. Je peux passer ma journée sur des salons, en clientèle, je peux passer ma journée avec des investisseurs, avec nos actionnaires pour des nouveaux tours, des nouvelles levées de fonds, pour des comités stratégiques, pour je peux être avec la technique sur un projet d'innovation, sur un développement spécifique qu'un client aura demandé. Je peux être avec des partenaires type Business France, avec BPI, sur des projets européens. C'est vraiment très variable.
D'accord. Et je me pose une question. Comment on fait pour en arriver là, à ce métier ? J'imagine que quand tu étais petite, t'avais pas forcément ciblé d'entrée ce métier, qui en plus n'existait peut-être pas à l'époque, puisque c'est un métier nouveau. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?
Alors, quand j'étais petite, je voulais être artiste. Voilà, comme beaucoup d'enfants, je pense.
Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'intéressait beaucoup. Je créais les propres vêtements de mes poupées, je me déguisais. Je faisais la comédie à table devant tout le monde. Enfin, voilà, j'adorais ça. Et donc, j'ai suivi les beaux-arts en périscolaire pendant des années. Donc vraiment, c'était sérieux quand même quand je disais que je voulais faire une carrière d'artiste, entre guillemets. Mes parents n'ont pas du tout entendu ce souhait-là. Et ils voulaient que j'aie un vrai diplôme.
Voilà. Comme souvent.
Comme souvent. Donc ils m'ont dit, tu as ton vrai diplôme et après fais ce que tu veux. Donc j'ai fui les écoles préparatoires, enfin les classes préparatoires parce que ce n'était pas du tout pour moi. Vu que j'étais un peu dans ma lune et du coup c'était un peu castrateur hein, pour moi j'ai fait une fac d'économie de gestion. Mm-hmm. Bon, je me suis complètement trompée parce que sur 35 heures de cours par semaine j'avais 30 heures de maths, donc c'était pas du tout mon truc. j'ai fait cette fac là et donc j'ai fait de l'économie. J'ai souhaité partir en échange. J'ai fait un échange d'un an en Grèce en pleine crise parce que ça m'intéressait de voir ce que c'était la crise. Tout le monde en parlait et je me suis dit on va aller voir ce qui se passe. Donc j'ai bien vu ce qui s'y passait.
Alors
ça a été ma plus belle expérience, mais ça a été très dur aussi. Voilà, parce que c'était du coup la pleine crise. J'en ai profité cette année-là, vu que j'avais pas mal de temps libre, pour faire des cours dans une école que j'aime beaucoup, qui s'appelle Central Saint Martins, qui est à Londres, et c'est une école de mode. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai pu un petit peu raccrocher à ce milieu artistique qui me plaît. Et à l'issue de cette année, je suis rentrée en France et je me suis spécialisée dans la croissance des PME et des ETI internationales.
D'accord.
Donc de l'économie, du
management. Donc finalement, tu as refait un pas de côté entre l'école de mode et...
c'est ça. Donc après, ça a été aussi un choix personnel. Mmh. J'ai fait mes études à Lyon Et donc, je suis native de Valence. Et en fait, à l'issue de mes études, j'ai décidé de tout me prédestiner à partir à l'étranger ou à Paris. En fait, je ne voulais pas du tout partir. Je trouve qu'on a une belle région. Et en fait, je trouvais qu'il y avait du potentiel, des choses à faire. Je me suis dit, bon, ben... Et puis, s'il n'y a pas de société qui veut de mon profil, je montrerai ma société, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais pas aller à Paris, en fait, faire comme tout le monde, faire comme tous mes copains qui, aujourd'hui, sont revenus en courant après le, le confinement. Mais voilà, donc je suis restée à Valence après mes études.
D'accord. Mmh. T'es restée à Valence. Et finalement... Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? T'es rentrée directement chez EVK ou bien...
Non, j'ai fait... j'ai fait un... Alors, pendant mes années étudiantes, j'étais en vente dans un magasin de prêt-à-porter haut de gamme sur Lyon. Donc, ça me permettait aussi, moi, de m'échapper un petit peu de l'aspect assez... du cadre assez rigide de l'économie, quoi. Et après, donc, quand je suis revenue en France... après mon voyage en Grèce, j'ai travaillé pour un make-up artiste valentinois qui s'appelle Serge Louis Alvarez, qui est le fondateur de Make-up Forever. Mmh. Et donc c'est un homme super talentueux et qui maintenant a sa propre marque qui s'appelle SLA. Et donc j'ai travaillé, je l'ai plutôt assisté en fait pendant quelques mois. Sur le développement de nouvelles gammes à l'étranger, sur des ouvertures de franchise, sur de l'événementiel, j'ai fait la refonte de leur site internet. En fait, ben, un petit couteau suisse, quoi. Je prenais tout ce qu'on me donnait à faire.
À cette époque-là, tu étais jeune diplômée?
J'étais en fin de diplôme, donc c'était un stage de fin d'études. Voilà, j'étais là pour apprendre. Donc voilà, enfin comme beaucoup de stagiaires, hein, à faire des heures pas possibles, à tout accepter, parce que c'était super intéressant, donc une expérience géniale de quelques mois et bon très prenante. Et à l'issue de cette expérience-là, du coup, un ami en fait m'a parlé de cette femme qui faisait des mannequins à Valence. Je lui dis ah bon, mais j'en ai pas entendu parler. Et en fait, je me suis renseignée. Et à l'époque, il y avait uniquement une page d'accueil de site internet, donc il n'y avait pas de site internet. Un petit article de la presse locale. Et donc, j'ai contacté Audrey comme ça. Et donc on s'est rencontrés et ça s'est fait comme ça en fait. Voilà, je lui dis moi je suis disponible, je viens, j'aimerais faire ça, mais je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait ça s'est fait.
Et t'as rejoint l'équipe?
J'ai rejoint l'équipe, j'ai monté ma structure dans un premier lieu. Donc j'ai été prestataire de la société et puis au bout de quelques mois, on a décidé de franchir le cap et du coup de passer à temps plein sur ce projet-là.
Et donc tu es rentrée sous quel poste initialement?
Alors en tout premier, j'étais gestionnaire, il me semble, commercial et financier, un truc du genre. Mmh. Après j'ai été growth manager. Après, j'ai été directrice innovation et stratégie. Et maintenant, je suis directrice de la croissance externe.
D'accord. Donc, on en revient à tous les intitulés de poste dont on
parle
tout à l'heure.
Voilà, qui en fait sont qu'une nuance d'intitulé, parce qu'au final, il s'agit à peu près des mêmes activités.
Mais ça retrace quand même finalement une évolution.
Bien sûr.
Dans la carrière aussi, dans ta carrière aussi.
Oui, c'est oui, vraiment, ça marque les temps forts de mon temps passé chez EVK, qui est incroyable en fait et riche d'expérience, voilà. Et ça fait partie des questions que tu devais me poser, je pense. Donc c'était le pourquoi rejoindre une start-up. Ouais. Moi, je pense que j'aurais pas pu rejoindre un grand groupe au final. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans des grands groupes et qui me disent ben, moi mon service fait du point A au point D et au final moi je fais le point, hein, une petite partie du point B et je sais pas ce qui se passe par ailleurs. Alors moi je suis trop curieuse, je peux pas juste m'arrêter à voilà, faire une tâche. Après je suis d'accord qu'on peut pas être bon de partout et ça c'est vrai aussi, il faut savoir connaître ses limites et pas avoir d'ego en fait, à dire ça, je sais pas bien le faire. Parce qu'on est tous bons quelque part. Mais en tout cas, voilà, pourquoi une start-up ? Parce qu'en fait, je pense qu'en... Du coup, ça fait 5 ans que je suis chez EVK maintenant. Qu'en 5 ans d'expérience chez EVK, je pense qu'en peut-être 20 ans d'expérience dans une autre boîte, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est
un accélérateur d'expérience.
C'est un accélérateur d'expérience. En fait, je suis ma propre limite. Voilà, Audrey, donc notre présidente, elle est tellement compréhensive sur le... Enfin voilà, et puis elle est supportive dans le sens, voilà, va où est-ce que tu veux aller, sois autonome dans ce que tu fais. Si c'est, enfin voilà, si c'est ta méthode et que tu y arrives, et ben fonce, crée-toi ton propre chemin en fait, et c'est bien parce qu'on est tous logés à la même enseigne. On peut avoir un stagiaire qui rentre dans la société de demain, va lui tenir le même discours et il aura toutes ses chances tout autant que nous. Enfin, et c'est génial en fait. C'est génial parce qu'il y a pas, enfin on est notre propre limite quoi. Donc c'est top.
Donc j'imagine que tu ne souhaiterais pas, en tout cas pas actuellement, quitter l'aventure start-up qui quand même a l'air bien prenante, puisque c'est vrai que tu as un sentiment d'appartenance qui est assez fort depuis le début. On sent que tu dis « on » et que finalement tu as aussi une visibilité sur tous les aspects de l'entreprise et un intérêt finalement assez marqué pour tous les aspects de l'entreprise. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ton côté curieux et ne pas être capable de s'arrêter à un aspect limité de l'activité de l'entreprise. Donc ça donne envie. Et en même temps, est-ce que c'est pas trop épuisant, le travail en start-up ?
Si, en toute honnêteté, je pense que je le ferai pas 20 ans. Voilà, parce que je pense que je laisserai ma place. En fait, à d'autres profils, j'irai peut-être faire d'autres choses, me reconvertir. Je sais pas du tout, je me pose pas la question actuellement. En tout cas, oui, c'est prenant, c'est très consommateur d'énergie, de temps, de motivation. C'est vrai qu'on vit des moments difficiles aussi, il faut pas se le cacher. Mais il faut, enfin voilà, il faut savoir rebondir. Et au final, c'est ce qui forge aussi et c'est ce qui fait une expérience. Et voilà, moi, je suis contente, en fait, de pas toujours avoir un supérieur qui me dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais le faire comme ci, tu devrais le faire comme ça ». J'aime bien trouver mes propres solutions et venir avec, voilà, avec du contenu et de nouvelles idées. Et de dire à Audrey, bah voilà, on peut se confronter sur ces nouvelles idées, qu'est-ce que tu en penses ? Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et non, c'est consommateur de temps, mais en fait, je ne me verrais pas aujourd'hui faire autre chose, en tout cas. Je ne sais pas ce que je ferais d'autre.
D'accord.
Non.
Finalement, tu es assez jeune pour occuper un poste de directrice. En tout cas, ça fait 5 ans seulement que tu es arrivée dans cette start-up. Au début... voilà, pas du tout sur ce poste-là. Je sais que tu n'arrives pas trop à te projeter forcément sur la suite, ou en tout cas, ce n'est pas évident, mais moi, je me pose quand même la question, c'est quoi la suite après avoir atteint le côté directrice de la croissance externe dans une start-up ?
Oui, bah après, en termes de... Pour l'âge, on a plein de petits jeunes qui rentrent. Écoute, je suis complètement has-been pour eux, donc voilà, tu vois, je suis déjà dépassée. J'ai pas 30 ans, mais déjà dépassée. Et le but, la suite après, bah, je suis directrice de mon propre service, hein, j'ai envie de te dire, et je suis toute seule. Le but plus tard, peut-être, c'est bah, de former d'autres personnes, voilà, de transmettre, parce qu'il y a quand même plein de choses à transmettre. Peut-être, voilà, la suite, je sais pas. Pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt dans le day-to-day et l'opérationnel, et on est plutôt sur. Bien qu'on ait une roadmap très claire sur les 5 ans à venir, des jalons à passer, à franchir et où est-ce qu'on veut aller, au final, on est en pilotage très court-termiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain mois, dans les 6 prochains mois ? Parce que c'est la problématique d'une start-up. Hein. Donc voilà, on a vraiment cette dualité, en fait, dans, en temporalité. Donc, je ne me projette pas sur un poste à 5 ans. Moi, je suis là, ça roule. Mais bon, on verra bien ce que je ferai dans 5 ans au sein de la société. Hein.
En tout cas, ce qui semble intéressant dans les startups, c'est que finalement, tu peux grimper assez vite les échelons. Et même si tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience en arrivant, tu peux être jeune diplômé. J'imagine aussi que c'est possible à l'inverse. Est-ce que vous avez des personnes en reconversion? Tu dis que tu n'as pas 30 ans et que tu es déjà dépassé. Ça m'inquiète, moi.
Ben, par exemple, donc Sandrine, qui est venue avec moi aujourd'hui, est une modéliste. Donc, c'est une personne du métier qui, elle, travaille sur les mannequins de bois, en fait. Elle a 20 ans d'expérience. Elle travaillait chez une marque. En fait, on l'a débauchée. C'était un potentiel client et c'est devenu... elle nous a rejoint parce qu'en fait, on lui a dit, mais Sandrine, ça se passe super bien entre nous. Ça te dirait pas de construire l'outil de tes rêves, en fait? Et elle nous a dit, mais carrément. Et en fait, elle s'est reconvertie. Elle est directrice du marketing produit de la société et elle développe les produits qu'elle adore, quoi. Et en fait, voilà, donc à tout échelon, à tout âge, enfin, tout est possible. C'est vraiment... Mais à contrario, hein, si on ne s'investit pas dans une start-up aussi, ça peut être un passage douloureux parce que c'est de toute évidence, ça demande énormément. Donc on est tous passionnés, en fait. On est tous passionnés et oui, si on s'attend à venir dans une start-up et faire de l'aquaponie
et du
baby-foot et des séminaires toutes les deux semaines, bah non, en fait, c'est pas ça la start-up. Enfin, il y a peut-être des start-up qui montrent cet aspect-là, mais en fait, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est une réalité aussi. Hein.
Une aventure humaine très prenante.
C'est ça.
Ouais, en tout cas, merci pour ce témoignage. Ça donne envie de s'intéresser à ce métier, en tout cas pour ma part.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.